Je vais commencer par vous faire. Moi, je suis Priscilla. Je vais commencer par vous faire un tout petit rappel de la loi du 11 février 2005 qui avait pour objectif d'être mis en place en 2015. Est-ce que vous êtes au courant de cette loi par rapport à l'accessibilité ou pas du tout ? Oui, de manière générale, plutôt oui, heureusement. Je ne connais pas la loi par cœur, je ne suis pas juriste, mais je trouve important de vous citer un extrait de cette loi, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette loi. Enfin, bon, il n'y a pas que... Alors, est considéré comme accessible aux personnes handicapées un établissement recevant du public existant ou créé dans un cadre bâti existant ou une installation ouverte au public dans des conditions normales de fonctionnement à des personnes handicapées avec la plus grande autonomie possible de circuler, d'accéder aux locaux, aux équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Je trouve que cette phrase des prestations est importante parce que quand on parle de la loi, on parle surtout du cadre bâti finalement, l'accès par ascenseur pour les personnes en fauteuil, l'accès pour les personnes aveugles et malvoyantes. Mais il y a aussi un versant qui est important, c'est vous êtes un lieu recevant du public. Il faut que les personnes en situation de handicap elles puissent rentrer dans ce public, mais, dans cet établissement, pardon. Mais il faut aussi qu'elles puissent accéder aux prestations, donc accéder au spectacle. Donc la loi ne dit pas il faut faire tant de spectacles adaptés en LSF avec audio, avec tel ou tel dispositif, mais la loi dit quand même que les prestations doivent être accessibles. Donc il y a des possibilités qui peuvent être simples quand vous n'avez pas forcément le budget, mais ça va être développer ce public-là, parce qu'on ne peut pas dire à l'heure actuelle « Ah ben non, nous, il n'y a pas de fauteuil, donc il n'y a pas de personnes handicapées qui viennent » ou « Non, j'ai pas vu de canne, j'ai pas vu de chien ». Ça n'est plus valable. Aujourd'hui, le public vient parce qu'il est informé qu'il y a des choses accessibles pour lui. Et ça peut aller de concerts à des spectacles, comme on dit nous, naturellement accessibles, qui ne nécessitent pas d'adaptation. Maintenant, il y a des choses dans les théâtres et opéras, dans les structures culturelles, qui permettent de rendre accessibles des œuvres. Donc, on va vous en citer quelques-unes. Et l'intérêt aussi, c'est de voir ce qui se fait ailleurs, parce que finalement, en matière d'accessibilité, vous allez voir qu'au niveau du spectacle vivant, on reste un peu pauvre au niveau des dispositifs et qu'on peut s'inspirer peut-être d'autres choses qui sont faites, notamment dans les musées.
Alors, bonjour, je prends le relais pour vous parler donc de la conception universelle qui va dans la droite ligne de la question de l'accessibilité. Très rapidement, l'accessibilité, ça sert à quoi ? Ça sert à ce qu'une personne accède à l'autonomie. Hein, c'est en quelque sorte réparer l'inadéquation qu'il y a entre sa capacité, son souhait, son besoin et... l'environnement dans lequel elle évolue, que ce soit un environnement physique, organisationnel ou culturel. Et la loi que tu évoquais, Priscilla, en fait, elle vise aussi à dire que la personne... la loi ne considère pas la personne handicapée, mais la situation qui la met en handicap. Donc c'est ça qu'il faut résoudre. Et à partir de ce postulat-là, on comprend très bien que tout à chacun... Un jour, on est susceptible de se retrouver en situation de handicap, que ce soit pour 24 heures ou le reste de sa vie, d'où l'intérêt pour la société, pour les lieux, pour les opérateurs culturels, de considérer l'accessibilité au niveau de sa conception universelle. Donc, je vous ai affiché le texte de l'ONU qui définit la conception universelle en disant qu'il s'agit de conception de produits, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous dans toute la mesure possible sans nécessité ni adaptation ni conception spéciale. Cela n'exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires, bien entendu. Donc les trois principes, mais c'est vrai que voilà, on est bien au-delà du cadre bâti.
Alors, un petit rappel aussi très bref sur la loi des chiens guides. On est plus ou moins confronté à ça. Alors, est-ce qu'on peut accepter les chiens ? Est-ce qu'on peut pas ? vous avez l'obligation de les accepter. C'est-à-dire que la loi définit clairement que les chiens guides ou les élèves chiens guides rentrent dans tous les lieux. Que ce soit culturel, une boucherie, une bibliothèque, peu importe, ils rentrent partout. Et c'est vraiment une obligation, sinon vous pouvez avoir une amende. Et ça paraît logique parce que c'est l'accompagnateur, c'est la canne, le chien guide et la canne de la personne aveugle. Donc si vous êtes confronté à ce genre de situation, même dans la vie de tous les jours, c'est surtout un manque d'information qui nous fait hésiter parfois dans quel lieu on a le droit, on n'a pas le droit. C'est une obligation, les chiens guides rentrent partout. Vous avez une petite publicité qui a été développée par l'AVH, l'association Valentin Huy, qui est assez marrante. C'est la pub, c'est la campagne d'information partout avec mon chien guide, où en fait vous voyez un aveugle avec son chien et puis il commence à le dégonfler et puis à essayer de le mettre dans sa poche pour rentrer dans un supermarché. Donc voilà, un peu d'ironie par rapport à cette obligation.
Donc, je rebondis sur la chaîne d'accessibilité qui, en fait, permet d'envisager le parcours du public, de la personne, depuis son lieu de vie, depuis l'information, jusqu'au lieu culturel, jusqu'à l'offre. Et retour, parce qu'une fois qu'elle a vu la pièce de théâtre, il faut bien qu'elle rentre chez elle aussi. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'au niveau du numérique... Il peut y avoir des solutions à toutes les étapes de la chaîne d'accessibilité. À son domicile, comment une personne déficiente visuelle reçoit l'information par votre site internet, par des newsletters, et sont-elles accessibles par des agendas ? Donc d'ailleurs, je voulais poser la question, j'attendais d'avoir la parole, et on reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure, mais est-ce que du coup, en termes d'accessibilité, dans les agendas que vous développez, Romain et Alette, je crois. Ils sont au fond. Bon. Est-ce que c'est pris en compte ? Dans quelle mesure ? Voilà, ça peut être intéressant. L'accès à la formation, l'accès aux lieux, en termes de numérique, il peut y avoir aussi des applications qui géolocalisent les lieux, des sites internet qui référencent les lieux. On vous en citera quelques exemples tout à l'heure. La circulation dans le lieu, il peut y avoir aussi des systèmes qui aident au déplacement, pareil, des applications, des bornes sonores, la sécurité, et puis le départ, pareillement. Voilà, donc tout ça, c'est à considérer dans sa globalité.
Alors, on n'a pas voulu... Enfin, on parle d'accessibilité universelle, de concevoir pour tous, c'est ce qu'il y a de mieux. On parle d'inclusion, inclure toutes les personnes en même temps. Mais on ne peut pas, on est obligé de réfléchir à des solutions par typologie de handicap, parce que des personnes aveugles et malvoyantes n'auront pas les mêmes besoins que des personnes sourdes, malentendantes. Donc là, on vous énonce un petit peu les typologies que vous connaissez sans doute. Il ne faut pas oublier que parmi ces typologies, il y a aussi le handicap invisible. Donc des personnes, comme l'a expliqué Émilie tout à l'heure, qui vont être en situation de handicap à cause d'un accident, ils vont avoir des problèmes pour se déplacer. Il y a les gens diabétiques, enfin voilà, il y a aussi un handicap qu'on appelle le handicap invisible. Donc on a décidé de détailler un petit peu les services par typologie. Donc pour commencer avec le public aveugle et malvoyant, donc c'est vrai qu'au théâtre, je vais plutôt bien être placée, Émilie aussi, pour vous parler de l'audiodescription ou d'autres dispositifs, les souffleurs d'images, qui permettent aux personnes aveugles et malvoyantes d'accéder au spectacle. Donc innovation moyennement, parce qu'on y travaille depuis les années 90. L'audiodescription, c'est un dispositif qui permet aux personnes aveugles et malvoyantes, via un casque, d'entendre tous les éléments descriptifs d'une pièce. Ça va être les changements de décor, les changements de costume, les entrées et les sorties des comédiens, leurs attitudes. Ça leur permet vraiment de suivre la pièce et en même temps d'être dans la salle au même titre que tout le monde et de profiter du jeu des comédiens. C'est des casques semi-ouverts, donc qui n'ont pas pour intérêt à camoufler le son. Au contraire, les gens doivent profiter du jeu, à l'opéra aussi des chants. Et donc, on fait un enregistrement en amont pour avoir une qualité de voix maximum. Et ce qui nous permet aussi, en n'étant pas en direct, d'avoir différentes voix. C'est-à-dire que pour une audiodescription, on utilise 50% de voix féminine, 50% de voix masculine pour avoir un peu toujours l'attrait du spectateur. Et pour l'opéra et les comédies musicales, il y a quelque chose qui se complexifie dans le sens où vous avez également le livret d'opéra qui est dans le casque parce qu'il y a un surtitrage pour les voyants, mais pour les aveugles et malvoyants, il faut bien réfléchir à quelque chose. Donc, c'est également transmis dans le casque et là, on peut utiliser des voix différentes selon chaque chanteur pour que les personnes aveugles et malvoyantes puissent identifier plus rapidement qui chante. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce dispositif ? C'est un dispositif qui est aussi très développé à la télévision et au cinéma. Et
j'ajouterais que tu parlais de l'audiodescription qui est enregistrée et donc diffusée. Donc c'est super normé. Nous, on propose également au niveau du CRTH des formations à l'audiodescription et on a notamment formé des salariés de la Villette qui étaient volontaires et super partants. On en a formé 6 l'année dernière et depuis un an, ils ont audiodécrit en binôme 4 spectacles et à chaque fois, ils le font en direct. Donc là où intervient par contre là, une autre problématique, c'est comment ils peuvent être, comment ils peuvent le dire. Comment ils peuvent recevoir leur, le spectacle et pas gêner les spectateurs. Enfin, voilà, il y a tout un champ là-dessus.
Et au-delà du numérique et de ce dispositif technique, effectivement, les petites phrases descriptives sont lancées par un régisseur le soir de la représentation avec audiodescription, parce que, par exemple, au cinéma, la bande est lancée et tout est calé à la seconde. Mais un spectacle vivant, vous êtes bien placé pour savoir que ça ne se joue jamais de la même manière. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un en régie qui place ses petites phrases de description au bon moment ou qui le fait en direct. Et ce qui est important, c'est que cette solution numérique, elle ne doit pas pallier à l'humain aussi. Et tout ce qu'on peut organiser autour, c'est un plus. Alors là, vous voyez sur les images, il y a beaucoup de structures qui organisent des visites tactiles de plateau qui permettent aux personnes aveugles de bien s'imaginer les espaces, de toucher les décors, les costumes et après de bénéficier du dispositif d'audiodescription.
J'ai une question sur la question sur l'audiodescription. Alors justement, aujourd'hui, où on voit qu'on a un taux d'équipement, par exemple, de smartphones, d'écouteurs beaucoup plus importants, où on peut éventuellement avoir un peu d'équipement au sein des lieux à des coûts qui sont peut-être plus réduits qu'avant, est-ce que dans certains lieux, l'audiodescription, il peut y avoir, vu que c'est fait en live aussi par les régisseurs, par exemple, des lieux qui arrivent en autonomie matérielle à mettre les choses en place, ou alors avec du matériel des spectateurs? Alors, avec Internet, par exemple.
Ouais, nous, ça ne se fait pas avec du matériel de spectateurs. C'est vrai qu'on fait tourner un matériel depuis des années qui peut servir pour l'amplification sonore. Mais j'en parlerai. C'est un petit boîtier où on met un casque et on a un émetteur en régie et émetteur et récepteur fonctionnent ensemble. Après, tu parles de dispositifs effectivement volants. On espère dans quelques années que ça pourrait effectivement se faire. Mais là, il y a d'autres questions qui se posent en sachant que le public aveugle et malvoyant est principalement senior. Ils ne sont pas tous équipés de smartphones. Il y a un vrai problème dans les théâtres en matière de réseau où il y a beaucoup d'interférences. On a eu quelques problèmes sur un ou deux spectacles, mais c'est très très rare parce qu'on fonctionne sur des fréquences très précises qui n'empiètent pas sur les fréquences des téléphones, qui n'empiètent pas sur les fréquences utilisées lors du spectacle. Et c'est vrai que il y a vraiment une question réseau pour l'utilisation de téléphone et de j'ai plus de batterie, mince, j'ai plus l'audiodescription. Donc du coup, c'est une vraie question, moi je trouve intéressante et j'espère que dans les années à venir, les producteurs de smartphones feront des téléphones qui tiennent plus d'une journée. Mais voilà, pour le moment, il n'y a pas de solution numérique.
Il y a des freins techniques.
Voilà, il y a des freins techniques. Voilà. Donc là, vous avez des photos, effectivement, d'une initiative des souffleurs d'images. Au niveau des personnes malentendantes, alors c'est ça, je voulais vous parler du matériel. Donc il y a deux dispositifs pour l'amplification sonore pour les personnes sourdes et malentendantes. Quand je parle de personnes sourdes, c'est des personnes qui sont soit appareillées, enfin, en fait on distingue le public sourd, locuteur de la langue des signes, et un public sourd et malentendant qui lui va être appareillé ou non, mais qui va pouvoir bénéficier de l'amplification sonore. Vous avez soit des boucles magnétiques individuelles, donc c'est l'élément que vous avez sur la gauche, Et ça, c'est du matériel volant. Ou alors, vous avez peut-être entendu parler de boucles magnétiques en dur qui sont dans, à l'intérieur de la salle. Et c'est souvent le cas des nouveaux bâtiments. Il y a des avantages et des inconvénients pour les deux dispositifs. Le principal avantage de la boucle en dur dans le bâtiment, c'est que les personnes n'ont pas besoin de se spécifier. Elles s'installent en salle et en fait, par contre, il faut qu'elles soient appareillées avec une position T. Elles mettent leur position T, elles entendent et c'est nickel. L'inconvénient de ces boucles, c'est que parfois, la plupart du temps d'ailleurs, elles ne sont pas réglées par les ingénieurs son. Donc, on ne sait pas où est-ce qu'il faut s'asseoir. On ne sait pas non plus à quel... Enfin, il y a des boucles magnétiques qui sont partout dans la salle. Il y en a à certaines rangées, donc c'est compliqué. Alors que les boucles magnétiques individuelles ont cet avantage de pouvoir avoir une réception partout en salle et d'être utilisées, par exemple, pour des visites. Si vous faites visiter votre lieu, vous pouvez avoir un petit émetteur portable avec un micro. Les gens ont les casques ou les boucles de manière volante et vous pouvez... leur faire une visite amplifiée. Par contre, l'inconvénient, c'est que les personnes doivent aller récupérer du matériel. Donc, ça veut dire comment est-ce qu'on fait ? On leur demande une carte d'identité ou pas ? Il y a une gestion aussi de matériel qui est plus importante qu'une boucle qui est installée. Mais n'importe comment, sur les deux dispositifs, alors, ce matériel-là vous permet aussi d'avoir des casques d'amplification. Donc ça, c'est un casque que vous branchez à la place de la boucle et qui permet d'avoir une amplification sans que vous soyez forcément appareillé. Toutes les personnes un peu seniors qui ne veulent pas dire qu'elles sont malentendantes, elles sont parfois bien contentes d'avoir le casque. Mais là, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça demande un réglage très précis et ça ne va pas être pareil d'un spectacle à l'autre parce qu'il faut bien penser que tout dépend de là où est la prise de son. Le mieux serait que tous les comédiens soient sonorisés. Or, vous savez que ça, c'est très peu le cas. Donc, la prise de son, elle peut être au plafond, elle peut être à l'avant-scène. Et du coup, si je suis très proche, les malentendants vont bien m'entendre. Mais si je m'éloigne, là, tout de suite, on perd en qualité de son. S'il y a un concert sur scène, enfin voilà. C'est quand même très compliqué dans une salle de spectacle. Madame, vous aviez une question ?
Oui, une question. Je voulais vous demander, par rapport justement à la position T, à l'heure actuelle, les malentendants ont des appareils plus sophistiqués que les boucles magnétiques déjà installées et ils n'ont plus la possibilité d'utiliser la position T parce que c'est des automatismes. Alors, finalement, notre boucle magnétique...
Alors, je suis très surprise par votre remarque. Vous voulez dire que les personnes ont des appareils tellement sophistiqués qu'ils n'ont plus la position T ?
Oui, plus sophistiqués que les installations dans les salles.
Alors peut-être que la boucle ne fonctionne... Non, bah, je suis assez surprise parce que justement la boucle magnétique, enfin la position T est de plus en plus sur les appareils pour leur permettre parce qu'il y a quand même des gros investissements qui ont été faits à la RATP, à la SNCF où vous avez des bornes pour la boucle magnétique. Donc je suis assez surprise que ça ne s'adapte pas. Mais vous avez un spectateur ou quelqu'un qui vous a fait partager son expérience. D'accord.
Donc, après tout, on a demandé à 3-4 personnes et donc les personnes n'ont plus ces appareils-là. Les appareils pour les personnes sourdes ont évolué plus vite que nos installations.
Alors là, ça m'intrigue parce que, en tout cas, il y a une grosse association qui s'appelle l'ARDDS, c'est l'association des devenus sourds, et qui milite justement pour la mise en place des boucles magnétiques. Donc je me renseignerai vraiment sur ces nouveaux appareils. Mais après, il y a une vraie problématique. C'est au niveau de l'information des personnes malentendantes qui ne savent pas s'ils ont une position T, qui ne savent pas comment l'installer. Bon, alors apparemment, une autre problématique que les appareils ont évolué et qu'elles ne conviennent plus aux boucles magnétiques. Mais ça, je suis assez surprise quand même. Parce qu'au vu des spectateurs qu'on connaît en tant que malentendants, ils utilisent pas mal la boucle magnétique quand même. Mais bon.
Est-ce que juste on a une échelle, j'imagine que c'est très difficile, mais d'investissement que représente l'une ou l'autre des solutions ?
Alors je sais que pour une valise à peu près de 30 casques, ce matériel-là volant avec les émetteurs, etc., il faut compter environ 10 000 euros, à peu près. Mais c'est du matériel qui est utilisé sur tous les spectacles pour l'amplification sonore. Et si vous mettez en place un dispositif d'audiodescription, vous pouvez réutiliser ce matériel. Pour les boucles en dur, alors ça, je ne sais malheureusement pas.
Ça doit dépendre des bâtiments, c'est trop variable. Ouais.
Ça dépend vraiment des bâtiments, etc. Alors, un autre dispositif numérique, le surtitrage. Tout le monde a entendu parler du surtitrage pour les spectacles en langue étrangère. Et bien là, c'est le même genre de surtitrage, par exemple, qui est fait à la Comédie-Française, donc mis en place par Accéculture, mais il est accessible pour les personnes sourdes et malentendantes. C'est-à-dire que vous allez avoir le nom des personnages qui parlent, vous allez avoir tout ce qui est bruitage, voix off, et le texte va être réécrit pour permettre une lecture facilitée. Et ce sera soit, alors là, la Comédie-Française a acheté un écran, ou alors on peut aussi tout à fait projeter. Ça, c'est le spectacle Vanishing Point qui a eu lieu au Théâtre National de Chaillot. Il avait l'avantage d'avoir une scénographie très cinématographique qui nous a permis de projeter le surtitrage sur l'écran qui était dans la scénographie. Et en fait, ça ne se voit pas trop bien sur la photo, mais en fait, il y a deux caméras qui filment en live les comédiens. Et du coup, là, les sourds ont vraiment beaucoup apprécié le spectacle parce que le surtitrage est intégré à la mise en scène, c'est ce qu'il y a de mieux, mais c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Et pour que vous ayez une petite idée, à Accéculture, on fait environ 160 audiodescriptions par an dans 60 structures et environ une trentaine de surtitrages et aussi des adaptations LSF, mais là, ça ne concerne plus le numérique. Donc, notre cœur de métier reste plus l'audiodescription que le surtitrage. Il y a un autre exemple pour le surtitrage qui est Théâtre in Paris. On les connaît bien et eux font du surtitrage surtout en langue étrangère. Et ils ont testé, il n'y a pas longtemps, au Festival d'Avignon, des lunettes connectées. Donc là, nouvel outil technologique développé pour une solution de surtitrage via des lunettes. Donc on attend de les tester pour voir ce que ça donne, mais on est assez proche d'eux parce que du coup, eux font du surtitrage, mais plus dans un... dans une volonté de tourisme, en faisant venir pas mal de personnes de l'étranger.
Ouais, et c'est là, effectivement, qu'on se rend bien compte, comme on le disait tout à l'heure, que les solutions d'accessibilité, qu'elles soient numériques ou autres, d'ailleurs, elles ne viennent pas forcément du domaine du handicap, tout d'abord. Et on est là aussi pour ça, pour faire des ponts entre les différents acteurs, entre les associations de personnes en situation de handicap, les opérateurs culturels, les entrepreneurs, les innovations numériques et autres d'aujourd'hui.
Pour la langue des signes, donc là, il n'y a pas d'adaptation numérique, entre guillemets, pour le spectacle, mais là, c'est l'outil d'information qui va devenir accessible. L'outil Internet nous permet de développer des vidéos. D'ailleurs, on a un bel exemple au Grand T qui a fait une vidéo de présentation en langue des signes. Peut-être que vous voudrez en parler parce que je sais qu'ils sont dans la salle. Mais voilà, c'est un outil qui est développé à destination du public sourd et c'est vraiment au niveau de la communication, la LSF, quelque chose qui marche le mieux. Oui. Et ça, en print, du coup, ce n'est pas possible. Donc là, l'outil numérique est vraiment important.
Et donc, il y a différentes associations ou petites entreprises qui proposent la réalisation, par exemple, Parole aux sourds, réalisation de vignettes qui peuvent s'incrémenter dans les sites web. Ils traduisent vos contenus, les contenus éditoriaux ou informatifs, événements. Et ils travaillent en collaboration avec vous pour directement les adapter sur les sites Internet.
Alors là, j'en viens finalement au musée, à des exemples. L'application qui a été développée au musée du Quai Branly, qui est une application qui permet de se promener dans le musée de manière très interactive pour le jeune public. Et c'est assez drôle parce que le comédien que vous voyez là est un comédien sourd. Et pour l'application, il a été oralisé et l'application est surtitrée. Donc finalement, c'est une application qui est disponible pour tous les enfants, aussi bien les entendants que les personnes sourdes, que les enfants sourds, malentendants ou entendants. Et elle est très interactive et le comédien signe. Et en même temps, il y a plein de questions ludiques et ça permet de jouer tout en profitant du musée. Donc c'est vraiment des choses qui permettent de réfléchir. Pour une application au spectacle vivant, est-ce qu'on n'envisagerait pas de développer une application accessible à tous pour le jeune public, pour découvrir le théâtre, quels sont les métiers du théâtre, avant une représentation, on peut imaginer plein de choses à partir de ça. Je sais que le numérique est, comme je vous le disais tout à l'heure, très peu exploité encore au niveau de l'accessibilité par le spectacle vivant, et l'exemple des musées où eux ont vraiment un temps d'avance dessus, on peut s'en inspirer pour mettre en place des choses. L'application a été développée par Signe de Sens, c'est une association dans le Nord qui fait vraiment des beaux dispositifs. Un autre exemple lié au numérique, assez drôle, développé par le Centre des Monuments Nationaux. Au château d'Oiron, vous aviez un robot, donc ça a été développé par des Français, et c'est une interaction où voilà, vous êtes au rez-de-chaussée et pour des raisons monuments historiques, il est impossible de faire un ascenseur. Donc il est impossible pour les personnes en fauteuil d'accéder au premier étage. Donc du coup, on leur propose de visiter le premier étage, le rez-de-chaussée, pardon, et de visiter le premier étage avec un robot. Donc c'est la personne qui décide où aller au premier étage. Alors évidemment, c'est pas la solution du siècle, mais c'est quelque chose d'assez intéressant et qui va même plus loin que des personnes en fauteuil, parce que bon, vous avez quand même la question de bon bah du coup je fais pas la visite avec mon frère ou ma famille, c'est un peu embêtant. Mais en même temps, j'ai beau être en fauteuil et je profite quand même de voir ce premier étage qui me serait inaccessible sinon. Et ça pose aussi une autre question. C'est-à-dire toutes les personnes qui sont en hôpitaux, dans des maisons de retraite et qui ne peuvent vraiment pas se déplacer, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi créer des dispositifs comme ça, interactifs, qui leur permettent de découvrir des lieux ? Donc découvrir des lieux, des châteaux, des théâtres, des musées. Et ça va bien au-delà d'une visite virtuelle qui ont été souvent déjà développées par les musées. Là, il y a une idée un peu plus intéressante que je trouve qui ajoute le choix. Finalement, c'est moi qui choisis comment je vais visiter ce musée, alors qu'une visite virtuelle, en général, vous avez quand même un parcours préétabli. Y a donc à la Cité de la Musique le parcours Toucher la Musique, donc là aussi qui est pensé pour des personnes sourdes, pour des personnes aveugles, pour le tout public. À chaque étage, vous pouvez retrouver des instruments qui sont faits en maquette tactile. On peut toucher, on peut essayer. Il y a une description de la vidéo. Vous avez des reproductions en relief des dessins que vous voyez là. Donc, ça a été pensé globalement pour tous. Et dans la vidéo, il y a également un interprète à l'SF. Donc, comme quoi, on peut, évidemment, avec un certain budget, mais envisager de rendre accessibles les choses pour tous. Une autre application intéressante développée il y a peu de temps. Donc ça, en fait, c'est une application qui permet de créer un réseau Wi-Fi à l'intérieur d'un espace. Donc c'est plusieurs maisons comtoises à visiter sur je ne sais plus combien d'hectares. Et il y a vraiment une question primordial quand on met de la vidéo, quand on met du contenu sur des applications, c'est est-ce qu'on va pas perdre trois quarts du temps à télécharger l'appli ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que le réseau est bon ? Ah bah là je capte, mais je capte plus, alors ça s'arrête. Et ce que je trouve intéressant dans cette initiative, c'est que ils créent un réseau Wi-Fi, donc ils vont installer des bornes et vous êtes connecté avec votre téléphone directement à l'application des maisons comtoises. Et du coup, vous vous promenez avec l'application. Ils peuvent mettre autant de contenu qu'ils veulent. En l'occurrence, ils ont essayé de construire quelque chose aussi pour tous, c'est-à-dire qu'il y a de l'audio description, il y a une traduction en LSF qui permet voilà, de télécharger du contenu sans que ça bloque. Et c'est du tourisme. Donc voilà, un autre exemple de numérique intégré dans une solution touristique, accessible à tous.
Alors, un autre exemple de site internet, pardon, accessible.net. Il s'agit en fait d'un moteur de référencement pour les lieux. Alors, quels qu'ils soient, hein, c'est pas forcément les lieux culturels, mais aussi. En fait, il propose, au lieu de se référencer directement suivant un certain nombre de critères d'accessibilité pour permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir obtenir déjà les informations et puis de promouvoir aussi le lieu. On est en train de travailler actuellement avec le département du 92 en partenariat avec Accessible.net qui est développé par Kernix sur le référencement des conservatoires afin de diffuser le plus largement possible les offres accessibles qu'ils proposent. Et donc on est même en train de remanier les fiches pour pouvoir apporter une information au maximum précise et pertinente aux utilisateurs. Et ce type d'outil, il peut être vraiment utilisé et repris par tous. Donc vous pouvez très bien vous y intéresser, vous y inscrire et du coup vous retrouvez référencé. Ça vous permet aussi de vous rendre compte du nombre de points d'accessibilité qui sont proposés. Peut-être que vous vous dites, moi, j'ai pas beaucoup d'accessibilité, ou moi, je suis vraiment au top de l'accessibilité. Et puis, en fait, de se rendre compte que y a encore des points d'amélioration, des axes et des leviers. Alors, I Will Share, c'est, parce que je sais pas, vous connaissez ce réseau social qui a développé une application permettant de partager les points forts et les points faibles. Pas que les points faibles, c'est ça qui était vraiment intéressant, c'est qu'il propose, c'est un réseau social qui permet aux gens de donner leur avis. Et ils sont vraiment dans une démarche positive, les bonnes initiatives. Donc voilà, ça c'était un petit point, un réseau intéressant à partager. Alors, Accès Web, si tu veux, mais oui. C'est un site internet qui conçoit des notices en open source, si je ne m'abuse, c'est ça ? Parce que je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, moi, c'est Priscilla qui me l'a fait découvrir.
Oui, effectivement, c'est des notices qui ont été réalisées en partenariat avec Atalan et des grosses entreprises sur comment rendre accessible un site internet, parce que c'est toujours une grosse question. Même moi, je n'ai pas la réponse en entier parce qu'il y a des choses qu'on peut rendre accessibles dans le code. Et du coup, les développeurs ont à faire certaines manipulations très précises pour que votre site soit accessible. Et s'il est pensé accessible, ce sera très facile pour une personne aveugle ou malvoyante de surfer sur le site et d'avoir accès aux informations. Mais il peut être possible qu'elle soit bloquée dès le deuxième ou troisième clic parce que le lien n'est pas conçu correctement, parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Et ça, vous, en tant que voyant, vous ne le savez pas. Donc, c'est important de donner les bons outils aux développeurs qui, eux-mêmes, ne sont pas forcément au courant de ce qu'il faut faire. Donc là, les notices sont très précises, à destination des développeurs et des responsables communication pour pouvoir comprendre les clés de l'accessibilité sur un site web. Par exemple, ça nous paraît peut-être bizarre, quoique maintenant, mais les accents sur les lettres capitales, sur un titre, je peux vous assurer qu'une synthèse vocale, si elle lit théâtre, c'est bizarre. Alors que si elle lit théâtre, voilà. Donc les accents, par exemple, ont vraiment une importance dans les sites internet. Il y a aussi
les espacements. Enfin, oui. C'est vrai que ça donne un panel de l'outil, le bon truc de base. Ne pas justifier son texte, par exemple, sur le site pour une meilleure lecture, jusqu'à l'utilisation du JavaScript. Rentrer les lignes de code HTML et autres. Donc,
Après, vous avez des usages, des choses clés, mais le mieux, c'est encore de faire appel aussi aux spectateurs, si c'est possible, dans votre conception, de faire un espèce de petit comité où les gens vont pouvoir suivre l'évolution du projet et pouvoir vous dire « Ah bah oui, mais là, j'aurais plutôt fait comme ça ». Après, ce qui est compliqué quand on fait participer des personnes en situation de handicap, je suis bien placée pour vous le dire, c'est que dans le handicap visuel, vous avez un panel incroyable de handicap visuel, de la personne aveugle à la personne devenue aveugle, qui a déjà vu, à la personne malvoyante, à la personne un peu malvoyante. Et du coup, ils ont des besoins eux-mêmes très différents. Donc après, il faut savoir aussi recueillir les informations et être le plus juste possible. Ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps, un programme où on m'avait dit « Ah ben non, l'extra bol, c'est carrément mieux pour nous », alors qu'on était, en régulière depuis longtemps, en police. Et j'ai recueilli les remarques, mais tout le monde me disait « Ah ben moi, j'aime bien le justifier. Ah ben non, moi, je préfère quand c'est pas justifié. Ah ben... » Donc, faut savoir faire un mix, quoi.
Faut toujours bricoler.
Voilà, ben on en a fini. Si vous avez des questions, des remarques, des partages d'expériences.
Oui.
Oui, donc Véronique Guillot-Leroux, je suis responsable de l'action culturelle à la direction de la culture de la ville de Nantes. On va travailler là en lien avec le Conseil nantais, l'accessibilité universelle, justement sur ces questions très prochainement, et constituer un groupe qui va réunir des acteurs culturels et des acteurs du champ du handicap pour faire évoluer les outils d'information, de communication de manière à ce qu'ils soient accessibles à tous. Je voulais savoir si vous aviez des exemples, justement, notamment d'agenda culturel ou autre à l'échelle nationale qui pourraient nous éclairer sur ces questions.
Ben, il y a le site accessible.net. Après, au sein des établissements qui travaillent avec le réseau Accès Culture, chaque structure, chaque région a développé ses propres outils. Il faut penser que c'est comme le public lambda. Il n'y a pas que le numérique qui est la solution parfaite. Je pense que la rencontre est très importante. Des présentations de saison communes entre les structures, on l'a souvent dit et beaucoup le mettent en place. Ça permet aux gens de se rencontrer, de savoir quel type de choses sont accessibles pour eux, les rencontres. Évidemment, il y a les documents accessibles pour les personnes malvoyantes. Si on peut faire du caractère agrandi, c'est vraiment bien. La rencontre avec les associations, je pense que c'est vraiment le cœur. Et après, au niveau des outils, il y a le caractère agrandi, le braille pour les personnes aveugles et malvoyantes. Il y a des sites internet.
Le facile à lire et à comprendre.
Il y a le facile à lire et à comprendre. Ça, c'est pour les personnes en situation de handicap mental et psychique. Vous avez... En termes d'accessibilité, à part le site accessible.net, il est vraiment pensé accessible pour les personnes aveugles et malvoyantes. Il n'y a pas de communauté d'agglomération qui aurait développé un site particulier.
En Gironde, ça me dit que si, il y a un site sur l'accessibilité et les événements culturels. Culture accessible Gironde, quelque chose comme ça, me semble-t-il. Mais alors, la problématique là, de l'accessibilité, enfin, ça rejoint ma question de tout à l'heure, Romain et Alette. Est-ce que vous intégrez ces notions de ces problématiques d'accessibilité dans le développement de vos outils, pardon.
Oui, on a intégré ça en début d'année. Donc, maintenant, il y a les quatre types de handicap plus langue des signes. Sur chaque fiche événement, on peut indiquer donc handicap moteur, auditif, cognitif, visuel plus langue des signes. Mmh. Alors ça, c'est un débat parce qu'en fait, c'est pas normé du tout dans la loi, que ce soit en France, en Europe ou à l'international, de ce que c'est qu'un handicap. Mmh. Donc, par exemple, on disait il y a des musées aux États-Unis qui font 9 types de handicap. Par exemple, handicap moteur, ou si je suis un parent en poussette, ou si je suis une personne âgée avec une canne, ils font des pictos différents. Nous, on a adapté ces 5 critères-là parce que c'est ceux utilisés par le ministère de la Culture. Et donc, tout ça, c'est disponible et on est en contact avec accessible.net pour qu'ils récupèrent tous les événements qu'ont eu justement un de ces pictos de sélectionner.
Après, c'est vrai que, par exemple, typiquement, le pictogramme de la LSF, il peut pas fonctionner tout seul et il peut pas fonctionner pour dire handicap parce que la communauté sourde ne se considère pas comme en situation de handicap. Donc le pictogramme de la langue des signes française, ils vont l'identifier, mais pas comme un picto forcément étant lié au handicap, mais à leur langue qui est la langue des signes française.
Ouais, c'est une compétence plus qu'un handicap.
Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est important justement de spécifier au-delà du picto parfois à quoi ça correspond. Parce que nous, par exemple, on utilise au sein de l'association le picto de l'œil barré qui est lié au handicap visuel. Et vous allez dire, bah oui, mais vous faites de l'audiodescription, pourquoi vous n'utilisez pas le picto AD ? Alors, c'est une longue question, mais si on veut communiquer sur les visites tactiles, sur des spectacles naturellement accessibles, sur d'autres choses, finalement, ce picto, il est identifié par les relais d'information ou par les malvoyants, comme quoi il y a une activité pour eux. Mais il faut toujours spécifier... Si c'est identifié par le picto, à quoi ça correspond ? Est-ce que c'est une visite tactile qui est accessible ? Est-ce que c'est de l'audiodescription ? Est-ce que c'est... voilà. Et pareil pour la LSF. Est-ce que c'est une rencontre qui est interprétée en LSF ? Est-ce que c'est un spectacle bilingue qui n'est pas la même chose d'un spectacle adapté en LSF ? Donc, il y a des terminologies à spécifier quand vous mettez en place des événements.
Oui, bonjour. Alors, juste pour vous répondre par rapport à l'initiative en Gironde, c'est l'IDAC, Agence culturelle de Gironde, qui travaille sur un agenda culturel accessible. Alors, moi, je vais faire un partage d'expérience, mais également une petite question. Donc, moi, je travaille au sein de l'AVEC en Limousin, sur un dispositif en Limousin qui s'appelle Dans tous les sens, qui est porté par une compagnie de théâtre qui est un travail de création au public, auprès des publics en situation d'handicap sensoriel. Donc en fait, ils ont été missionnés par l'ex-DRAC Limousin sur un dispositif assez global. Du coup, en fait, sur la médiation, sur la sensibilisation aux personnes en charge d'accueil, mais également sur l'information. Donc en fait, avec un panel de critères, comme vous l'avez dit, c'est il y a à peu près une dizaine de critères à la fois pour les personnes malvoyantes, sourdes et pour les personnes aveugles. Avec également ce que vous parliez, c'était la description d'œuvres en langue des signes, en amont de la diffusion de l'événement. Voilà, donc c'est un dispositif dans tous les sens qui est porté sur Limousin. Et moi, ma question, c'était par rapport aux œuvres, en fait, est-ce que vous disposez d'un répertoire d'œuvres accessibles avec des critères ? On voyait accessible.net, c'était plutôt sur les lieux. Mais par contre, est-ce que sur les œuvres, spectacle vivant, est-ce que vous avez déjà un répertoire qui fiche l'ensemble des œuvres et avec des caractéristiques assez précises ?
Alors en fait, nous, au sein d'Accès Culture, donc on adapte, comme je vous le disais, une centaine de spectacles par an. Et du coup, on a un catalogue de spectacles qui sont des spectacles qui ont été adaptés, soit qui ont fait de l'audiodescription, soit des adaptations LSF. Et c'est vrai que notamment sur les adaptations LSF, on travaille beaucoup en lien avec les compagnies qui ont décidé, parce que parfois les metteurs en scène prennent vraiment l'accessibilité à cœur, de mettre adaptation LSF dans leur dossier de présentation de spectacle. Donc ça veut dire que ce spectacle peut être adapté en LSF. Pour ça, il faut se renseigner. Effectivement, dans tous les sens, on vous connaît bien. Est-ce que vous avez un site internet, du coup ? Parce que je vois bien la brochure. Il y a une brochure qui est bien fournie avec des pictogrammes, braille, caractères agrandis. Et c'est aussi sur un site internet. Non ? Oui ? Ouais. Culturelimousin.fr. En Limousin. Ah, le site n'a pas été pensé en accessibilité dès le départ. D'accord, donc c'est vrai que si dès la base on ne pense pas à développer son site en accessibilité, c'est plus compliqué de le rendre accessible. Donc si vous faites des mises à jour de site, c'est à ce moment-là qu'il faut vous dire: il faut que je fasse quelque chose pour l'accessibilité. Et quand on ne l'a pas fait, la solution B, c'est d'avoir une brochure qui permette aux personnes aveugles et malvoyantes, enfin là, aux personnes malvoyantes, d'avoir accès quand même à ces contenus. Pour les personnes aveugles, on éditait un CD sous format DAISY avec des pistes audio. Donc ça peut être une solution aussi. Et je pensais, juste pour revenir au réseau, il y a un réseau en Normandie, et je ne retrouve plus le nom comme ça, mais qui développe aussi... une cohérence comme ça en région.
Justement, j'allais intervenir par rapport à ça.
Eh ben oui.
Nicolas Briat de l'Audia Normandie. Ouais. Et en Normandie, on a effectivement une association qui s'appelle Arteose.
Voilà, c'est Arteose.
Et donc, qui a fait une plateforme, donc arteose.net, et qui répertorie en fait toutes les activités culturelles avec un système de pictogrammes qui va indiquer le niveau d'accessibilité. Et indiquer aussi les spectacles et événements culturels qui sont naturellement accessibles. Et avec cette plateforme, on a possibilité aussi d'avoir un premier niveau de référence par rapport à son lieu et de voir si son lieu est accessible ou pas. Et après, de faire une demande auprès d'Arteose ou d'autres structures pour faire une étude de son lieu un peu plus précise.
Désolée Nicolas, mais je pensais à Arteose, je me suis rattrapée avant que tu le dises. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou questions ?
Arnaud Saint-Martin, je suis directeur du développement culturel pour les chantiers théâtre de Blaye et de l'Estuaire. Donc je confirme tout d'abord qu'en effet c'est bien l'IDAC Pardon. Dans le cadre de l'agenda 21 du Conseil départemental de la Gironde, qui ont travaillé en effet au niveau de l'accessibilité, aussi bien en direction du sport que de la culture. Justement, dans le cadre des missions de l'opérateur culturel du Conseil départemental de la Gironde, donc l'IDAC, il y a une mission de prêt de matériel, et notamment, ils se sont dotés d'une boucle magnétique qui était justement disponible pour les manifestations. Donc, nous l'avons utilisée sur certaines éditions. Donc là, j'avais une petite question, c'est savoir, par exemple, sur d'autres territoires, est-ce qu'il y a un organisme vers qui on peut se tourner qui aurait centralisé les informations d'organismes qui auraient peut-être à disposition des boucles magnétiques en prêt ou en location, par exemple. Et après, en échange d'expérience, c'est juste aussi un détail, c'est aussi de bien sensibiliser le personnel technique. Puisque une année, nous sommes rendus compte pendant l'édition du festival que la boucle était installée, mais elle n'était pas connectée.
Eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Effectivement, la technique, c'est une vraie question, notamment sur les boucles magnétiques. Je pense juste à un autre réseau, parce que je disais que non, mais en fait, oui. Il y a le réseau aussi des festivals. Ils ont un pendant accessibilité et ils sont en cours de développement aussi d'un site de référence. Alors moi, j'aime pas bien ça non plus, qu'on multiplie les sites. Accessible.net, c'est ce dont on parle le plus, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un site et de pas de multiplier les informations, mais parfois en local, il y a ce besoin aussi. Donc c'est toujours un peu compliqué dans le numérique, c'est que parfois aussi, les projets se développent, on n'est pas au courant et on développe nous-mêmes notre solution. Et ça, c'est une vraie question dans le numérique. Et du coup, la question de qui référence les boucles magnétiques qui marchent ou pas, j'ai pas la solution à part sur accessible.net où effectivement il y a la possibilité de savoir si le lieu est équipé en boucles magnétiques. Madame a une remarque. Il y a parfois des structures qui sont équipées, je le sais en tout cas dans notre réseau, ça fonctionne comme ça, et qui partagent le matériel.
C'est typiquement notre cas au CRTH, où effectivement on a une régie mobile et où on propose des boucles magnétiques individuelles, de l'audiodescription, des plaquettes, braille, gros caractères, etc.
Mais au-delà de ça, les structures entre elles d'une même ville partagent parfois le matériel aussi. Mais la question, c'est à partir du moment où vous avez le matériel pour l'amplification sonore, si vous le prêtez à quelqu'un, vous ne l'avez plus. Donc...
Ouais, mais en même temps, c'est aussi la question, par exemple, de qui va financer une audiodescription. Et c'est la compagnie, c'est la prod, c'est le lieu. Et quand ça tourne, qu'est-ce qui se passe? Et c'est peut-être vraiment en amont, à un moment donné, il faut s'emparer de la question au démarrage. Au démarrage des sites, au démarrage des créations, et l'intégrer dans le budget. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Effectivement, ça a un coût, l'accessibilité, qui est quand même très important.
Madame, vous aviez une remarque.
Dans le tour de table des informations, donc moi je suis Nelly Barbe, je suis chargée de mission spectacle vivant au sein du service culture de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, donc particulièrement affectée à l'ancien territoire Poitou-Charentes, donc pas très loin de Blaye. Et à ce titre-là, on avait développé un dispositif pour accompagner les équipements culturels qui souhaitaient, enfin pour les inciter à se doter de boucles magnétiques. C'est un dispositif qui a perduré pendant 3 ans. Qui n'a pas rencontré un succès formidable, on va le dire. Il faudrait qu'on le retente d'ailleurs, parce que je pense que depuis, les mentalités ont évolué et je pense que le dispositif est mieux connu. Et à ce titre-là, on a un parc de matériel qui s'appelle l'APMAC à Sainte, que vous connaissez peut-être, et qui a recensé et référencé sur son site internet, qui permet de gérer ce parc de matériel, mais aussi et surtout de faire l'inventaire de tous les lieux de spectacle, de tous les lieux d'accueil de spectacle possibles en Poitou-Charentes. Donc tous les lieux qui sont équipés, notamment de boucles magnétiques, en essayant aussi de décrypter les quelques notions d'accessibilité.
Et est-ce que
de
c'est
manière très empirique par ailleurs, parce que je crois que c'est pas très normé.
Ah si, c'est assez normé à travers la loi. Et d'ailleurs, le site accessible.net utilise des pendants de la loi pour justement pouvoir... que vous spécifiez un peu plus précisément, est-ce que j'ai une rampe, est-ce que j'ai un accès, etc. Donc, est-ce que ce réseau-là connaît le site accessible.net?
Eh bien, je leur poserai la question.
Voilà.
Voilà.
Oui.
Mais et par rapport, excusez-moi, je voulais juste rebondir par rapport, je ne sais pas pourquoi ça n'avait pas bien marché. Là, vous disiez, est-ce que ça n'avait pas rencontré le public? Mais ce public, il faut aussi aller le chercher. Il faut aussi lui donner le goût de la culture, des sorties culturelles. Et ça commence avec l'éducation artistique. Ça commence à la base.
Vous disiez que finalement, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient pris la boucle, c'est ça? Ah, il n'y avait pas beaucoup d'équipement. D'accord.
Oui, non, mais c'est vrai que là, on parle beaucoup de solutions, mais où est le public? Il faut aller aussi à sa rencontre. Il faut lui donner le goût de venir à la nôtre.
C'est pas évident, hein, Fabrice. Je pense que tu pourrais partager ton expérience là-dessus. Après, votre question... Si, allez-y. Non.
Limousin, alors, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes maintenant. Non, alors juste pour continuer, c'est vrai que je suis d'accord avec Émilie Bourgoin, sur la démarche globale. En fait, c'est vrai que vous avez sur la part, nous on peut agir sur différents pans en fait de l'accessibilité. C'est vrai que pour rejoindre par rapport à l'initiative de l'APMAC, c'est vrai que nous avec Limousin, on a également une part de matériel. On se met en relation avec les autres parts de matériel qui existent sur la grande région pour peut-être proposer un service de ce type. Moi, c'était par rapport à accessible.net. En fait, quelle est la structure qui est derrière, en fait? Est-ce que c'est, du coup, c'est...
Alors,
c'est
en fait, c'est pas du tout Accès Culture. À la base, le ministère de la Culture et de la Communication a formé un groupe qui s'appelle la RECA. C'est la Réunion des établissements culturels pour l'accessibilité, où tous les gros musées et tous les services d'accessibilité, donc là, c'est un facteur important, c'est que dans beaucoup de musées, il y a des services où une personne qui est spécifiquement dédiée à l'accessibilité. Les gens avec lesquels on travaille, avec Émilie, il n'y a personne qui est en charge de cette mission en particulier. C'est un responsable du développement des publics, c'est une personne à la communication, c'est une personne qui fait la com, le développement des publics et l'accessibilité. Alors évidemment, l'accessibilité, c'est chronophage, ça demande du temps pour la recherche du public, ça demande des moyens importants. Donc à la base, accessible.net, j'en reviens là, la Réunion des établissements culturels pour l'accessibilité avait fait un site, je ne me rappelle plus, de base. Et c'est ce site-là qui a été modifié en accessible.net avec un partenariat avec l'agence Kernix, qui est une boîte qui développe des solutions de sites web. Et en partenariat aussi avec le CRT, c'est le Comité Régional du Tourisme, et qui va à la rencontre aussi des lieux pour... Oui, le Comité Régional du Tourisme d'Île-de-France, qui va à la rencontre des structures pour voir s'ils sont accessibles, les conseiller dans la mise en accessibilité. Je sais que l'objectif qui serait le mieux pour le CRT, c'est comme ils ont un peu des succursales partout, c'est que ça s'écrème un petit peu partout en France. Mais les directions, tout ça, c'est plus compliqué que ce qu'on pense. Et voilà. L'origine du site.
Bonjour, Fabrice Bocherel, chargé de relations publiques au Grand Trait. Alors effectivement, moi, je peux parler de mon expérience puisque je m'occupe du handicap sensoriel et je sais ce que c'est d'aller chercher le public, que ce soit aveugle ou le public sourd. Je voudrais juste revenir sur la question du prêt du matériel aux descriptions. Nous, on a eu la chance, grâce au soutien de Accès Culture, de se faire financer 30 casques par la Fondation RAS, une fondation qui est à Saint-Étienne et qui œuvre pour l'amélioration des vies des personnes malvoyantes et aveugles. Et du coup, on a instauré un planning partagé puisque la Fondation... Le principal, le financeur du coup du Grand T est le Conseil départemental de Loire-Atlantique. Donc, ils nous ont un petit peu, enfin, à partir du moment où on avait l'octroi de ces casques, de faire partager, de prêter dans l'éventualité du coup à des structures qui en avaient besoin, qui dispensaient des yeux de description ces casques. Et donc, on a instauré un planning partagé et ça marche très bien puisque on travaille avec l'ANO, le lieu unique, où on se prête mutuellement les casques. Et puis, ce que je voulais dire aussi, effectivement, il y a la partie outils qui nous aide. Moi, je travaille essentiellement en diffusant effectivement les informations à travers des mails en direction du public aveugle. Mais il faut surtout se déplacer, il faut surtout aller au contact. Et je mesure, moi, la difficulté surtout de faire venir du public sourd, puisque au Grand T, en fait, on dispense une représentation par saison en LSF. Mais on a créé, puisque tu veux peut-être que je revienne sur la vidéo qu'on a créée la saison passée, cette année, du coup, on a souhaité, alors pour cette proposition en LSF, on fait une vidéo. Grâce au soutien de Jean-Luc Godin, qui est un interprète en langue des signes, et Sophie Hogar, qui est une personne sourde, ce qui nous permet de rentrer en communication avec les associations sourdes. C'est bien d'avoir une personne sourde, du coup, qui participe. Et on a réalisé, il nous a semblé bon de créer ce qu'on appelle une vidéo générique qui pouvait présenter les spectacles dits accessibles naturellement. Et on en a répertorié 11 au sein de notre structure du Grand T. Et pour ces 11-là, on avait des vidéos pour les 7. Effectivement, du coup, c'est une vidéo qui circule sur le site. Et je sais que dans la communauté sourde, du coup, ils sont très friands de ce genre de vidéos parce que du coup, ça fonctionne très, très bien, les réseaux sourds. Et donc, on verra ce que ça donnera, notamment pour la prochaine qu'on va réaliser, parce que la prochaine, c'est sur Mon frère, ma princesse. On va réaliser une vidéo lundi prochain.
On va devoir conclure. J'ai une dernière question. Non, d'accord. En tout cas, merci pour toutes vos questions, interventions. Ça nous permettra aussi de répertorier certaines initiatives et on les relistera d'après ce qu'on a pu enregistrer. Ça permettra aussi de suivre un petit peu tous ces projets. En tout cas, je note aussi une chose, c'est que d'une part, il y a l'accès, notamment par audiodescription, book magnétique, des choses comme ça, qui peuvent être des investissements lourds et qui peuvent être mutualisés sur un territoire. En plus, évidemment, un lieu qui prête ne l'a plus, mais par exemple, les théâtres souvent n'ont pas des programmations tous les jours et donc peuvent faire tourner Et puis, rendre, par exemple, la moitié de sa programmation accessible, c'est déjà mieux qu'une fois. Donc, je pense qu'il y a des pistes de ce point de vue-là. Et surtout, ce que je note, c'est à quel point l'accessibilité, en fait, c'est tous les publics et ce n'est pas les publics en situation de handicap. Et je crois que c'est une des choses qu'il faut vraiment garder. Aussi des références que vous avez pu donner, comme Accès de Web ou Accessible.net. Mais la question de l'accessibilité en général, l'accessibilité au public... par exemple, il y a des critères de développement des sites web en termes d'accessibilité pour une facilité, l'ergonomie, la lecture. En fait, il y a beaucoup de choses à intégrer pour notamment les non-publics qui ne sont pas forcément en situation de handicap, mais aussi pour la fidélisation de nos publics, en fait. Et c'est ce que je ressens aussi dans ce que vous racontez, parce qu'on est dans les théâtres avec un public sur un âge assez varié entre les scolaires qu'on accueille et les publics qui constituent. Mais on a quand même aussi beaucoup un public de 45, 55, 65 ans, donc qui va être en effet amené sans être en situation de handicap à pouvoir rencontrer des difficultés. La question, j'imagine, dans tous les lieux, vous avez entendu le moment où les gens n'ont pas bien entendu les acteurs, enfin voilà, on a ce problématique qui revient souvent. Et donc se poser la question de l'accessibilité au sens général, c'est aussi se poser la question de la pérennité de nos publics encore quelques années. Donc je retiens aussi ça. Merci beaucoup à vous deux.